Rediffusion d'une émission de Principe Actif. Une rediff, quoi.
T'as des répercussions.
Tout regarder la télé, tes matchs de foot, là. Oh, j'en peux plus, là. Je suis littéralement ventousé devant ton écran à regarder toute cette espèce de barbare. Qui courent après la balle.
Des barbares ?
Oui, ce sont des barbares.
Des beaux athlètes comme ça ?
Ah, d'accord, je vois ce qui t'intéresse. Hein ? Évidemment. Hein ? C'est la fête des corps.
Attention, je vous interromps, c'est parti. C'est un départ qui... Oh là là !
Aïe, que se passe-t-il ?
Oui, oui. Serait-ce à nouveau Satan d'imite ?
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut.
Voilà.
Eh bien bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Ta mère en short, l'émission consacrée exclusivement au sport sur l'antenne de Principe Actif. Il en fallait bien une. Feu le café des sports, Ta mère en short était née au début septembre, rentrée 2014-2015. Et voilà, c'est un petit peu essoufflé hein, sur le mois de mai avec les ponts et puis les organisations. Aujourd'hui, on revient et on revient avec du lourd, mesdames et messieurs, dames, dans cette émission dans laquelle forcément on reviendra sur quelques exploits sportifs locaux, mais aussi sur les coups de gueule, les choses qui nous ont marqués. Et puis nous avons un invité de standing, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, dames, en la personne de Rémi Vallin. Bonjour Rémi Vallin.
Bonjour.
Et puis, bah, il est forcément accompagné de la fine plume de leur info La Dépêche. Il s'agit bien sûr de Monsieur Philippe Guinchard qui est Phil Laguinche. Bonjour à toi, Philippe.
Salut.
Voilà, on sera privé, c'est vrai, hein, de Monsieur Guy Moquet qui ne pourra assister en cette émission. Il est assistant médical sur le temps du midi, le lundi, de temps à autre, et c'est son cas aujourd'hui. En tout cas, voilà, ouais, ça fait très plaisir, Rémi, de te recevoir, parce que mine de rien, voilà, contractuellement, tu rigolais en disant « Ouais, il a fallu que je plie mon bureau, il y a des choses nouvelles qui se passent à Évreux, je suis encore à Évreux, mais tu redécolles incessamment sous peu de t'avoir autour de nos micros, comme on l'a eu un petit peu tout au long de l'année, parce qu'on assistait aux conférences de presse, Philippe nous faisait des résumés réguliers. On se rappelle aussi que grâce à Laura ou ce que tu avais apporté à l'ALM Évreux, on avait enchaîné et enclenché une émission un peu atypique l'an passé durant les playoffs qui s'appelait Triple Double, qui était ô combien intéressante. On revenait sur chaque lendemain de rencontre, sur les rencontres de l'an passé en playoffs. Mais ça, c'est un sujet passé. Ce qui nous importe, c'est...
On l'a fait avec un champion de France de National 2. Hein,
Pardon ah, je
l'ai pas précisé. On va lui rendre hommage quand même à Philippe.
Un autre grand Philippe, monsieur Da Silva, bien sûr. Voilà, qui fait plaisir. En tout cas, on va démarrer forcément par l'habitude et la petite coutume de savoir ce qui vous a marqué, messieurs, dans la semaine, de manière positive ou négative, à l'échelon national, régional, international. Voilà, je vous donne pas de piste, hein, je vous parlerai peut-être de l'UEFA pour ma part, ou de ballon rond sur une terre ébruissienne, mais voilà, est-ce que toi, Philippe, il y a quelque chose comme ça qui t'a dérangé, ou au contraire qui t'a fait extrêmement plaisir, ou alors c'est l'histoire de la terre battue qui, on voudrait bleu, mais en fait qui garde ocre, mais qu'on garde ocre parce qu'on est content qu'elle soit ocre, alors que certains veulent qu'elle soit bleue.
Alors non, pas du tout, hein. Donc je vais laisser comme ça, parler un petit peu pour laisser le temps à Rémi de trouver. Exactement. Parce que là il n'est pas prêt du tout, j'ai
c'est
vu dans son regard interloqué
là,
je l'ai vu qu'il était un petit peu perdu et que je pense qu'il va prendre une petite lampée pour se donner du courage. Donc moi il y a deux choses qui m'ont ravi, c'est l'élection de Sepp Blatter à la tête du football qui confirme que le football reste le football et restera toujours le football. Et puis la deuxième chose c'est l'élection de Guy Noves à la tête de l'équipe de France, enfin l'élection prématurée. On a parlé justement, vu qu'il est là, de Rémi en disant que son annonce était peut-être un petit peu prématurée, l'annonce qu'il parte chez les vilains canards de Rouen.
Nos meilleurs ennemis,
mais là, celle-là, pour le coup, elle est encore meilleure, c'est que là, on va s'apprêter à jouer une Coupe du Monde avec un sélectionneur qui ne sera plus sélectionneur après. Ouais. Donc, bon... On peut déjà dire que s'il est affaibli dès le départ, c'est-à-dire que si les joueurs ne s'approprient pas l'envie de faire quelque chose, au premier couac, il n'aura pas d'autorité, il n'aura rien du tout, et ça risque d'être vraiment de la fanfaronnade de première. Pour le reste, voir Guy Noves à la tête de l'équipe de France, ça va être intéressant parce que c'est quelqu'un déjà qui est très très qui est très très toulousain, 100% toulousain, et on va voir ce qu'un toulousain peut apporter à une équipe de France maintenant. On le prend pas au meilleur moment de sa carrière parce que c'est une décision plus difficile qu'il a eu à coacher cette année. Il est un petit peu sur le déclin tout de moins au niveau de ses équipes, et ça va être intéressant de voir voilà justement qu'est-ce qu'il peut apporter de plus ? Est-ce qu'il va pouvoir justement apporter un plus aux équipes de France ? Est-ce que c'est juste une question de coaching ou est-ce une question de génération de joueurs ? Et puis j'ai hâte aussi de voir comment vont se comporter les journalistes, mes confrères avec lui, parce que c'est pas un cadeau
a priori.
C'est pas un cadeau, on est au niveau là. Ils ont beaucoup gossé Philippe Saint-André qui a lui des problèmes de timidité vis-à-vis du micro. mais qui est un mec vachement bien. Là, je pense qu'ils vont tomber sur un client qui va pas être forcément facile. Et j'ai hâte de voir des petits Pierre-Michel Bonneau avec en interview avec lui. Bon, je pense qu'il va pas jouer l'interview d'ailleurs. Mais
ça m'a surpris aussi ce choix parce que c'est vrai que voilà, c'est un mais grand monsieur du rugby qui a une grosse culture, bien sûr, une grosse expérience, un vrai regard sur la chose. Mais c'est vrai qu'on peut être surpris après 40 ans passés au Stade Toulousain. Moi, j'aurais imaginé que le jour il partirait pour arrêter, voilà, ou devenir un président d'honneur ou ambassadeur. Mais de se remettre en question ainsi, carrément de s'occuper de la sélection nationale, sacré pari quoi.
Et puis surtout quand le gars il parle, tu vois, il est très froid par rapport à ça. Il dit que c'est pas un rêve de gosse parce qu'il y a que les gosses qui rêvent avec lui. Il a plus l'âge de rêver, voilà. C'est juste un aboutissement. Il change pas de club, mais il change de structure. Il fait autre chose. Je pense qu'il ça va être intéressant. Hein. Je pense que ça va être des méthodes complètement nouvelles aussi de management et tout ça. Ça va être assez sympa de voir ça.
Est-ce qu'on peut triper et dire peut-être que Marcoussi ça va être transféré géographiquement à Blagnac?
Non, ça, je pense pas. Je pense que ce qui va être le plus surprenant, c'est d'avoir justement quelqu'un qui est assez froid, assez hermétique, qui n'est pas un communicant. Donc déjà, ça va être assez dérangeant. Et c'est quelqu'un qui a des convictions très fortes sur lesquelles il n'a jamais dérogé, quoi. Donc ça va être vraiment difficile d'appréhender ce que va être. Il va y avoir en tout cas une rupture radicale, ça c'est clair.
Affaire à suivre.
1er novembre. Hein, donc ouais, on va savoir la tournée de novembre sera déjà imprégnée du sceau de son successeur.
Rémi, toi, est-ce qu'il y a quelque chose, toute discipline confondue, qui t'a surpris ou étonné ou apprécié?
Je te laissais le basket, hein, t'as vu, j'ai été fair play, j'ai pas attaqué le basket.
Ah oui, puis il est pas obligé, bien sûr, de parler de basket, il peut avoir plusieurs choses, hein, d'ailleurs.
Non, mais il y a deux choses. La première, c'est comme Philippe, c'est la réélection de Sepp Blatter.
Ah ouais.
C'est du grand n'importe quoi et ça nous montre ce que le sport est en train de devenir pour les sports les plus médiatiques. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut retrouver les vraies valeurs du sport, il faut se tourner vers les sports qui sont encore un petit peu proches de l'amateurisme. Voilà, en basket, on a encore la chance d'être un petit peu protégé, quoique les histoires
Pro B Pro A, les votes des présidents et tout le tralala.
Non, monsieur. Mais il y a eu les histoires des poules géographiques l'année dernière qui nous a clairement empêché de finir troisième ou quatrième du championnat l'année dernière, parce qu'on s'est retrouvé dans une poule géographique qui était la plus forte, et on aurait été dans celle de Chalon-Reims, on aurait terminé troisième, on aurait peut-être eu une autre issue à la fin. Donc il y a ça, les wildcards. Bon, moi je vais en bénéficier parce que je vais dans le club qui...
T'as eu le fair play d'attendre, qu'elle soit digérée.
Si ça ne descendait pas.
Mais bon voilà, il y a toutes ces choses-là, on voit que l'Euroleague veut se fermer de plus en plus et tout, donc même si on est encore un petit peu protégé, on est quand même exposé à tout ça. Après, c'est vrai que, comme le dit Philippe, le foot, c'est...
Ah là, c'est quand même du grand n'importe quoi.
Je suis allé voir Verino, là, je t'en parlais. Justement, il a parlé de la... Verino, le comique, qui parlait de la réélection de Sepp Blatter et qui dit... c'est quand même bizarre qu'il y ait des choses qui est un petit peu louche dans le foot. Bah, pourtant, c'est simple. Il y a des putes, de l'argent et du pouvoir. Donc voilà, après, faut pas s'étonner, mais c'est juste dramatique que ce soit aux yeux de tout le monde.
On m'a rappelé que je crois que dès le deuxième mandat, il avait dit que ce serait son dernier. Il en est au quatrième.
Ouais.
Puis le Michel Platini qui sort comme ça dans les médias, qui clash ouvertement, mais d'une manière presque polie, mais enfin voilà, grillé. Ouais, c'est quand même alors, du grand n'importe quoi.
Alors j'espère, je suis peut-être un peu naïf, mais je crois que Platini a une démarche quand même un peu moins tordue que Sepp Blatter. Je pense pas que ce soit la soif du pouvoir, parce que je pense que Platini a naturellement le pouvoir, même ne serait-ce qu'à l'UEFA. Le fait est, c'est que je pense qu'il doit avoir un peu l'impression de s'être fait un peu blouser par Blatter, parce que il a été élu, Blatter, justement, en opposition, justement, avec Avalanche, qui était quand même le monsieur corruption, voilà. Et là, on se retrouve avec les mêmes griefs à la fin. Donc je pense que quelque part sa démarche est peut-être un petit peu plus positive. Maintenant, c'est vrai que c'est Blatter, c'est un des hommes les plus influents dans le monde. Hein. C'est ça qui est terrible.
Ah, parce que
c'est Highlander.
Non, mais rappelons-nous des
choses. Il a pas la gueule, mais
rappelons-nous à un moment donné quand même des enjeux financiers avec les contrats publicitaires, les partenaires privés signés. C'est comme on peut comparer, mettre un parallèle avec les Jeux Olympiques où il y a 2-3 grosses marques qui sont extrêmement présentes. Faut imaginer les enjeux financiers de dingue que cela représente. Et moi, ta remarque sur Michel Platini, j'ai déjà un petit bémol. Alors, je vais être un peu taquin, je vais être un petit peu regardant. Mais il a déjà perdu, pris plutôt quelques tours de ceinture. Et moi, je reconnais des fois dans les hommes politiques ou les hommes de pouvoir ou les hommes influents dans le sport ou dans d'autres domaines, lorsqu'ils prennent des tours de ceinture, parce qu'à force de manger le midi avec des gros repas, des grosses restaurations, à refaire le monde et puis signer en fait en bout de table un contrat quand on a bu plusieurs verres autres, je fais un amalgame, rentre dans les clichés. Et ben, j'ai noté que quand il a remis la coupe de l'UEFA là, au vainqueur du FC Séville, voilà, espagnol. J'avais déjà noté déjà qu'il avait pris beaucoup. Là, il a pris énormément.
Bon, il y a Blanco aussi. Mais par contre, voilà, tu as face à toi quand même aujourd'hui deux spécimens qui souffrent d'un peu de surpoids, on peut le dire. Hein, Rémi et moi, pourquoi parce qu'on n'a plus le temps matériel maintenant de faire de l'exercice. Avant, nous
c'est cérébral, vous seulement.
Au début de la carrière de Rémi, on va dévoiler quelque chose ici. D'ailleurs, on fait un petit clin d'œil à Jérôme Amiot qui nous écoute. Nous, on se lançait justement des sortes de défis permanents pour jouer le vendredi midi à la salle Omnisports après le shooting des équipes visiteuses pour faire des petits duels et pour surtout se garder en forme à la fois physiquement et mentalement. Voilà. Ouais. Et là, on n'a plus le temps. Ça fait 2 ans qu'on ne le fait plus.
Ouais, et surtout qu'ils étaient écœurés de
c'est-à-dire voilà, c'est-à-dire que bon, le petit monégasque, petit monégasque qui s'en est pris plein les chicots, il en avait ras le bol, donc il a dit arrêtons de leur filer la salle le midi et c'est terminé quoi. Et franchement, à cette époque-là, il y avait Stéphane aussi, on était un petit paquet. Il s'est rendu compte quand même qu'il avait affaire à lui non seulement à de fines plumes, mais aussi à des adversaires redoutables.
Voilà.
Et donc, pour en revenir au surpoids, bon non, on ne critique pas, mais la malnutrition dans le sport est une chose. Alors il y a la surnutrition, mais il y a la malnutrition. On est passé tout à l'heure devant un kebab, on a failli arriver en retard parce que Rémi voulait s'arrêter et goûter le nouveau buns de notre sponsor Euro Kebab.
Oui, c'est le buns. Je connaissais pas le nom.
Le buns. Donc voilà, donc on espère qu'il trouvera de bons kebabs quand même à Rouen.
Oui, mais on fera
attention à son tour de ceinture.
Bah moi c'est ballon rond aussi, je veux quand même en faire un petit clin d'œil parce que on n'a pas eu d'émission entre-temps, le FC 27 qui remonte en CFA2, ça c'est quand même assez chouette, voilà.
Avec une très 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 belle saison au niveau du.
Je crois qu'il y a une défaite.
Une seule défaite, au niveau des points.
Et c'est ô combien intéressant et important de le souligner parce que on a connu Principe Actif particulièrement, mais pas que nous, vous aussi, amis auditeurs ou passionnés du ballon rond ou du sport en général ou de l'actualité à Évreux. Quand même, l'époque Mathieu Bonnemer hein, qui était vraiment rempli de bonne volonté. Moi, je les ai rencontrés à l'époque.
Mal entouré, peut-être.
Peut-être après pas totalement bien entouré, mais ça, c'est une autre histoire. Ça nous concerne pas. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous, on partageait les commentaires de rencontres à l'époque de la CFA2, qu'on a fait durant 2 ans, où il y a quand même eu pas mal de couacs. Il y a eu des choses qui étaient un peu particulières, des gestions humaines. On pensera par exemple au premier coach qui était pas mal classé, qu'on lourde quand même parce qu'il ne s'entend pas avec tout le monde. Peut-être que si on l'avait gardé, il serait peut-être allé au bout. Mais bon, ça, tout ça, c'est des si, c'est des si. On ne va pas revenir là-dessus. En attendant, de les voir aujourd'hui avec un effectif vraiment quasiment heurois dans sa globalité, avec de vraies valeurs, avec un vrai bon coach, avec une vraie ossature administrative, eh ben ça fait plaisir quand même de retrouver le 5e niveau national.
Et un bon président, parce qu'on le connaît aussi, Maurice Le Petit, c'est un vrai passionné. C'est lui qui est en charge notamment du bowling à Évreux, là, et c'est quelqu'un qui met de l'argent, hein, clairement, pour permettre à son club de survivre. Il attend désespérément, je sais pas si c'est Godot, mais il attend des investisseurs, j'espère qu'ils arriveront un jour. Et une de ses premières réflexions quand il a su que malheureusement Passy venait de perdre à Lillebonne et donc sortait de la course et donc valider le ticket pour le CFA2 à Évreux, il a rendu hommage en disant que Évreux est un bon champion grâce justement à des équipes comme Passy et comme Rouen qui lui ont mené la vie dure pendant toute la saison. Et ça, je trouve que c'est bien d'avoir des gens comme ça qui ne marchent pas uniquement sur la tête des autres et qui savent aussi rendre hommage à de valeureux adversaires.
Superbe. Avant de partir en musique plutôt pour la première pause musicale de cette émission, Rémi, on va profiter de l'actualité.
La NBA aussi.
La NBA, on a hâte.
Non, mais il faut qu'il nous raconte qui va gagner. Qui va gagner, Rémi?
C'est Golden State qui va gagner.
Les Bulls
Il est un peu vintage. Il est un peu vintage.
C'est Saint-Sébastien. Non, parlons plutôt de ce qui est au départ et une actu pour lui aussi et qui parle de sa division. Les playoffs, là, on vient de voir dans l'actualité, c'est tombé hier que Denain et Boulazac passaient. Donc,
ils se rencontrent en
Deux solides clients. De l'autre côté, Antibes revient à une manche dimanche partout contre Nantes. Merci. Et d'ailleurs Nantes, moi, que je mettrai une pièce dessus, bizarrement. Puis de l'autre côté, Le Portel qui s'est fait battre à domicile, qui avait fait l'exploit d'aller gagner à Toulon, qui vient de perdre à domicile. Ouais. Rémi, toi, tu vois une équipe, tu vois clairement une équipe là. Je te parle pas de prono, tu vois, c'est trop compliqué. Mais
moi, j'aimerais bien avoir une finale. Je sais pas si c'est possible, mais Nantes Boulazac.
Oui, c'est possible.
C'est possible. Ouais.
Parce que
pour Michon.
C'est mes deux grands potes, c'est Franck Collineau et Michon, parce que c'est deux personnes exceptionnelles au niveau humain, et Franck Collineau, peu de gens le connaissent, mais ça a été un assistant fidèle pendant 9 ans à Nantes. C'est un mec en or.
Il a fait super boulot à Nantes.
Il a fait un super boulot et qui vit les choses à fond. Et voilà, c'est deux bons entraîneurs, deux très bons entraîneurs, et surtout deux très bons mecs. Voilà, on avait fait une petite soirée sympathique tous les trois. Il y a encore eu 9 mois et ça me fait plaisir de les voir là. Donc j'aimerais bien qu'ils soient en finale tous les deux.
Après, ouais, d'en retrouver peut-être un du coup l'année prochaine en pro.
Parce
que c'est l'enjeu, on le rappelle, hein, c'est play-off de Pro B. Voilà, on a Monaco possible, qui est monté. Mais...
C'est possible que ce soit la finale. Parce que Boulazac a la longueur de banc pour affronter Denain. Et puis Nantes.
Denain, attention, ils ont aussi de la longueur de banc. Hein, c'est pas mal.
Pour affronter Denain. Parce que là.
Denain, il joue sur Denain,
il joue
11.
D'ailleurs, Denain Boulazac. Qui va recevoir, qui va avoir
l'avantage? Boulazac, c'est Boulazac, troisième.
Donc voilà, l'avantage du temps.
Évreux,
c'est possible.
Ils ont mis du temps à nous sortir. Ouais. Voilà, tout le monde savait qu'il fallait nous sortir. Ouais. Si on était en play-off, c'était plus compliqué.
C'était plus compliqué.
Toi, t'as Philippe une équipe comme ça?
Moi, Boulazac, ouais. Enfin, il y a 2-3 équipes aussi, mais Boulazac de Nain, moi, je pense que c'est le vainqueur qui ira au bout.
D'accord.
Voilà. Mais voilà, hier Toulon, je mettais pas une pièce sur hier Toulon du tout, et je pensais que le Portel allait surfer sur une fin de saison terrible où il termine sur 2 clutches pour deux tirs au buzzer pour se qualifier, pour gagner leurs 2 derniers matchs et passer devant Évreux. Alors qu'ils gagnent le premier match, encore une fois, comme tous les ans en quart de finale contre Évreux, ils gagnent le premier match et ils perdent le match ensuite à domicile alors qu'ils sont portés par le plus beau public de Pro B. Tu dis
après celui de l'ALM.
Ah non, je pense que c'est encore plus beau.
Il y a
une super ambiance à Évreux, mais il y a un public qu'on n'aura pas, parce qu'il y a une fanfare, il y a une culture de festive là à l'extérieur à Denain. Il y avait 15-20 personnes d'Évreux avec le maillot jaune. Et je pense que ça, malheureusement, on va avoir du mal à le créer. Hein. Soit ça prend, ça prend pas. Et là-bas,
donc c'est vrai que le Portel, ils peuvent vivre ce qu'on leur a fait vivre malheureusement durant 2-3 ans.
Statistiquement, c'est quasiment impossible de gagner 2 matchs d'affilée
chez l'adversaire, ouais.
L'adversaire en play-off, tu peux les surprendre.
Mais au moins, hier Toulon, c'est pas non plus une grosse ambiance.
Et puis, il y a un parallèle aussi avec toi, Rémi, c'est que Laurent Le Gnam, c'est ça, le coach qui a signé lui à Dijon, de mémoire. Ouais. Ça aussi, ça peut être un peu particulier, même si là, hier, ils ont prouvé que non.
Il a pas attendu, il a fait 2 ans, il avait le même bilan.
Il a bougé, ouais. Allez, on s'accorde une pause de musique et puis on revient sur justement.
T'as pas dit le tien, toi, ton favori?
Nantes.
Nantes, ouais.
Ouais, bizarrement, moi, je vois Nantes.
Donc, toi, quoi?
Moi, Nantes, c'est l'équipe double fête.
Ou quand on entre?
Denain.
Ouais, moi, Boulazac. Le gagnant de voir aussi.
Allez, pause de musique et puis.
Point en kebab.
On se retrouve dans quelques instants, mesdames et messieurs, dames. Jackson Sisters avec le morceau Boy You Are Dynamite. C'est pas facile à dire ça, hein, qui est un petit peu un petit clin d'œil tiens pour le monsieur Rémi Valin. Les noms des morceaux ont été un peu choisis en fonction. Hein. Garçon, t'es de la dynamite, c'est vrai qu'au départ, on sait pas, on voit arriver mais Rémi Valin Évreux, on sait pas, nous, il vient de loin, est-ce que l'expérience elle est là, est-ce que le monsieur il a pas un grand CV, il est jeune, alors c'est pas cette histoire-là tout il a approuvé, mais quand même, on n'est pas loin de ça, il y a une dizaine d'années à Évreux, mine de rien. Mais avant, il y a des choses, hein, Rémi, il y a des choses, mais tiens, et s'il te plaît, juste un peu de volume dans vos casques, juste que t'entendes ça quand même. Et mesdames et messieurs, dames, c'était il y a une dizaine de jours à Évreux. C'était énorme.
Ça met les poils, hein.
C'était énorme. Et moi, je l'ai capté en honnête,
regarde cette pudeur, il a mis des manches longues, justement, pour pas montrer qu'il avait les poils.
C'était énorme et c'était mérité, mais c'était surtout énorme. On avait une salle Omnisport qui était debout.
Et pourtant, le timing était délicat parce que c'était fin du match. Il y avait déjà, je dirais, un bon tiers de personnes qui étaient parties. Il y avait quand même pas mal de gens qui étaient restés parce qu'on attendait tous le résultat de Nain Le Portel à ce moment-là. Hein. Mais ouais, non, c'est la première fois que je vois déjà un entraîneur se faire acclamer.
C'est pas souvent, c'est clair.
Hein. On a déjà vu des entraîneurs se faire siffler, qu'on a vu quelques-uns à Évreux, c'était déjà arrivé, mais pas le Rémi comme ça pendant très longtemps. T'as un souvenir, toi ?
Non, mais quand j'avais été élu MVP.
Ah oui, c'est vrai.
Match de gala.
C'est vrai.
Déjà, ça avait été sympa.
C'est vrai.
Non, mais là, c'est sûr, j'ai répondu à une question là, d'un des journalistes de Basket News, parce qu'il va avoir un article sur mes années à Évreux jeudi prochain ou vendredi prochain, je sais plus quand ça sort, Basket Hebdo.
Jeudi, tu devrais savoir.
La première question, c'était quelle a été la plus grosse émotion que vous ayez vécue à Évreux. Et clairement, c'est ce qui s'est passé il y a une quinzaine de jours, parce que c'est la fin et qu'il y a tout. Il y a une victoire, c'est après un match, donc forcément, on descend un petit peu, on est encore sous tension. Il y a le public qui scande mon nom, il y a mon fils qui est là, il y a ma femme, il y a tout le monde. C'est quelque part, je sais que ça peut être le dernier match, et ça a été le dernier match.
Des femmes nues dans le vestiaire en plus.
On va pas en parler.
Qu'est-ce que nous, Flore ?
Voilà, on est un peu au CSKA Moscou, ouais, bref, on a les moyens. Mais donc c'était vraiment chargé d'émotions, et ça a été émotionnellement le plus beau moment en 9 ans.
Ouais, c'était beau, hein, franchement. Tu dis un tiers, moi je crois qu'il y avait quand même encore une bonne partie de la salle qui était là.
Un tiers de partie.
Très honnêtement, c'était encore moins parce que les gradins étaient encore bien remplis. Les gens étaient encore... moi j'étais en recul, je voyais bien la salle sur sa globalité, c'était assez chaud. Alors Rémi, quand même, qu'on revienne, on va pas revenir en arrière parce que là, ton actualité, j'ai envie qu'on en parle aussi et tout, mais c'est vrai que... Moi, je me posais cette question-là. Tu as aujourd'hui 37 ou 38 ans, c'est ça ?
37. Ouais.
37. Tu as donc dirigé la LM Évreux l'équipe de pro de la LM Évreux durant 9 saisons. Avant, il y a des expériences atypiques, puisque tu as joué au basket sur le rocher, qui à l'époque ne s'est pas effrité d'ailleurs. Je fais des petites métaphores.
C'est plus fin.
Tu as porté le maillot monégasque, mine de rien. Et c'est énorme quand même, parce que c'est Monaco, tout ce que ça représente, hein, mesdames et messieurs, dames. D'ailleurs, regardez, aujourd'hui, Pro B, bam, Pro A. Alors qu'ils étaient accédants, hein, on le rappelle quand même.
Accédants.
L'année prochaine, ils jouent les premières places
et
de Pro A.
Ils veulent jouer l'année prochaine les premières places de Pro A, ce qu'ils vont très certainement
faire. Bah, c'est sûr.
Voilà, les noms avancés, Diawara, et puis je sais plus qui dans les négociations.
Aronsel. Ouais,
ça va envoyer.
Puis les joueurs étrangers qui vont arriver, ça va être du très très gros calibre. Hein.
Alors, anecdote d'ailleurs, je l'ai appris que récemment, c'est que le gymnase de l'équipe de basket se trouve sous le stade Louis II.
C'est dans le stade Louis II. Ouais.
Voilà, c'est un complexe multisport.
Il y a deux terrains de basket dans le stade Louis II.
Énorme. Donc toi, tu joues au basket là-bas. D'ailleurs, tu as fait, bien sûr, avant du basket, tu l'as pratiqué avant d'avoir envie de l'entraîner.
Ah bah oui, j'ai commencé le basket, mais un peu plus tard, parce que vers 13-14 ans, quand ça a été à 13 ans. Parce qu'avant, j'étais au judo, après j'ai continué aussi le judo, et puis c'était la grande mode du basket, donc on s'est tous mis petit comme grand, donc petit. Et voilà, et puis c'était la grosse période des playgrounds à Paris. Donc j'ai connu vraiment le basket playground où j'étais même persuadé à 18 ans que les meilleurs joueurs de playground de Paris pouvaient battre n'importe quel proie.
Oui, pour info, il était dans le 13e arrondissement, là où il y a beaucoup de Chinois qui étaient plus petits que lui.
Excuse-moi, voilà, mais t'es pas loin de dire la vérité, parce que moi j'ai connu l'époque Mousse Sonko.
Ah oui, non mais...
Mousse Sonko, il mettait à l'amende tout le monde.
Non mais sur mon playground, il y avait Mousse Sonko, il y avait Olivier Saint-Jean, il y avait...
Ah, tu faisais celui-là, t'étais à...
À Tolbiac.
D'accord, merci. Ouais,
c'était en bas de chez moi. Et donc voilà, j'ai fait beaucoup de playground. Après, j'avais un club sympa qui était là, Don Rémy. Et qui est d'ailleurs avec Jean-Emmanuel Lebrun. On joue ensemble.
Donc, ça a été ah ouais, ouais.
Bah oui, c'est un pote d'enfance, genre. Et bon voilà, donc après j'ai joué. Puis je suis passé aussi par Tahiti.
Ouais, alors ça, cette période Tahiti, c'est dans le cadre de ton service militaire. C'est quoi? Comment ça se fait
non,
que
non,
tu te
refais le service? Moi,
non, bah, moi non plus.
Pied plat.
Moi, insociable, c'est énorme.
Pied tendre.
L'année où c'était plus obligatoire.
La même pour moi. Et mais du coup, comment tu te retrouves à Tahiti, quoi? Entraîner une sélection de jeunes, moins 20, c'est ça, un truc comme ça?
Non, en fait, c'est Georges Adams avec qui j'étais
à Monaco.
Ouais. Et qui m'a proposé le challenge. Il m'a dit, bah, écoute, viens, tu vas t'occuper de la formation de 4, tu vas voir le pôle espoir, il y a la sélection des moins de 20 à prendre.
Et plein de choses à faire, quoi.
Voilà, on peut jouer au basket. D'ailleurs, avec Aorai, mon club, on a tout gagné. On a même battu l'INSEP. En Coupe de France avec Aldo Curti, Marc-Antoine Pellin, Alessia Ginza,
d'accord,
qui étaient en face et ils croyaient qu'ils allaient nous battre facilement. Puis on avait gagné le match d'ailleurs.
Le pitbull était sorti, on a envoyé des brins.
Ouais, il y a surtout Maréré.
T'étais entraîneur de quoi?
Il avait un Tahitien.
Qui ont déjà éliminé deux joueurs de la Coupe de France, de l'INSEP en au bout de 3 minutes. Curti, il a pris une entorse et un cocard et il a plus joué du match.
Les Maoris, tu sais.
Ah bah non, ouais. L'écran c'est pas le même.
Ah c'est pas le même, mais du coup, Rémi, là il n'y a plus question de jouer. Là t'es déjà en mode coach.
Non, je
là, t'es en gestion. Tu jouais aussi,
jouais,
t'avais la double casquette.
Ouais, je jouais dans l'équipe d'Oreille, on a tout gagné cette année-là. On a fait la Coupe de France, on a fait une super aventure. On a tout gagné, Coupe de Tahiti, Coupe des îles.
C'est ça, il y a une multiplicité d'îles sur place.
Ouais, donc c'était sympa, formation de cadre à Bora Bora, enfin tout. J'aurais pu rester là-bas d'ailleurs.
D'accord. Et alors, comment tu te retrouves derrière à Rouen?
Bah en fait, il y a Gaston Flos qui a la bonne idée de faire une motion de censure comme Jacques Chirac.
Ah, c'est le préfet là-haut.
Et, ouais, et du coup.
J'ai décidé de dissoudre Rémi Valin.
Non, mais c'est pas ça. C'est
Rémi en fait, de Valin.
Non, mais moi, mon vrai poste pour gagner ma vie, c'était instituteur, si tu veux. Et, j'aurais pas gardé mon poste à Papété. Vu que Gaston Flos, tout est politique. Donc j'aurais été muté dans une île. J'avais pas envie d'aller dans une île l'année d'après. Je voulais rester sur Papété. Donc du coup, quand il y a eu ça, je pouvais pas forcément garder le poste où je voulais. Donc du coup, je suis rentré en France.
Et Rouen qui se présente alors, à toi?
Ouais, grâce à Bruno Suarez, qui est l'entraîneur de Gravenchon.
Ouais.
Et qui me met en contact avec Rouen, qui cherchait quelqu'un pour être à la fois sur la N3, les espoirs avec David Dubosc et prendre l'excellence région, les cadets régions, enfin faire un peu tout, quoi. Donc du coup, je suis retourné à Rouen plutôt que retourner à Monaco.
Là c'est beaucoup plus, enfin comment dire, formel ce travail d'entraîneur. Là clairement, où tu démarres clairement ton travail au quotidien, tes réflexions tactiques, même si sûrement elles avaient été entamées préalablement, ou ça avait déjà été le cas.
Non, mais c'est plus un cheminement. Moi je me suis toujours investi de la même manière que j'ai mes poussins à Paris, que mes poussines à Mont-Saint-Aignan, que mes poussins et l'école de basket. J'ai jamais réfléchi différemment.
D'accord.
Si tu lui demandes son meilleur souvenir d'ailleurs, son meilleur souvenir de basket, c'est un souvenir avec des poussins,
ouais,
c'est ça que tu m'as raconté.
Mes poussins au tournoi international de Matera. Oui, parce qu'à Monaco, on avait,
en Italie,
on avait de l'argent, donc on pouvait aller dans le sud de l'Italie pendant 10 jours. Et on avait battu Naples. Le Napoli, quand même, tu vois l'affiche AS Monaco Napoli.
Pas mal.
Et on avait gagné, je sais plus. Sans
comprendre.
Après prolongation avec les gamins de Monaco qui pleuraient tellement ils étaient fatigués et tout. Et ça avait été énorme, un grand moment.
C'est marrant, hein, des fois, t'as des petits souvenirs comme ça qui sont complètement, qui apparaissent désuets aux yeux du commun des personnes, mais que toi, t'as vécu vachement de l'intérieur et qui, des fois, sont formateurs, qui génèrent des super trucs, ouais.
C'était super.
Du coup, Rouen, et puis qui frappe des vœux à la porte de Rémi Valin pour dire ouais, tu veux pas venir adjoint? Parce que tu deviens adjoint en venant à Évreux ou tu venais aussi pour l'école de basket à l'époque?
Non, en fait, là j'étais sur les espoirs pro
de Rouen.
De Rouen, j'avais le centre de formation et on descend en Pro B. Et puis ils ont rien à me proposer au niveau financier. Donc j'allais pas vivre sous les ponts. Hein.
C'est plus toi du coup qui envoie des CV à gauche à droite?
C'est là que j'ai pris un agent pour dire bah écoute. Voilà, j'ai envie de me lancer un peu là-dedans. Ça me plaît, la formation et tout. Trouve-moi un centre de formation. À la base, c'était ça, je voulais avoir un centre de formation. Et puis, j'ai pas eu le centre de formation de Roanne. On n'était plus que deux. C'était Guillaume Quintard, qui après a été le coach d'Aix-Maurienne, qui lui a eu le poste. Et du coup, après, bah, on m'a proposé de faire des essais. Enfin, d'ailleurs, avec Pascal Thibault, ça a été des essais. C'était assez fou, d'ailleurs, comme mode de recrutement. Et on était 5-6. Puis, on m'a proposé ce truc d'assistant. On m'a dit, va à Évreux. Alors, assistant, au début, ça me bottait pas tellement parce que t'entraînes pas. Moi, je préfère entraîner même des jeunes plutôt que d'être assistant sur les pros. Puis, ben, finalement, si tu veux, en fait, c'est un concours de circonstances. Hein. J'avais pas grand chose, fallait bien que je mange. Donc, voilà, je suis venu ici et j'ai passé les tests pour être assistant.
C'est lui qui t'a fait passer
Parce que moi, c'était énorme.
Il est exceptionnel. Pascal Thibault, c'est quand même un mec qui était. Alors, c'est un. Je crois qu'il est perfectionniste et donc il se rend même pas compte, je crois, des dégâts qu'il peut faire. Non, mais j'ai assisté notamment une fois à une reprise de blessure de Bruno Coquerand qui était à Besançon et il lui a fait faire des tests de poussin avec un suicide, des trucs dans ce style-là. Et le mec, au bout d'un moment, il pète les plombs et il prend la balle. Il prend la balle quand il a dans ses mains, Coquerand, c'est comme un pamplemousse, quoi. Et il balance une prune, mais qui passe à un mètre de la tête de Pascal Thibault, parce qu'il en a ras le cul, ça fait 20 minutes, 30 minutes qu'il lui fait faire des trucs à la con, et il se barre. Et puis, et là, donc, bon, tu te dis, putain, ça va aller au clash, il va y avoir une lettre derrière. Pas de lettre derrière, rien du tout, la fois d'après, il dit, bon, maintenant, quand tu seras prêt, tu reviendras, mais là, tu restes toujours sur la liste des blessés. Voilà, c'est ça. Et c'est un mec très particulier, quoi.
Ouais, parce que à ses côtés.
Donc toi, ouais, tu devais pas être forcément très rassuré parce que c'est pas un mec chaleureux en plus. Ah, là, non. Pas, enfin, il est sympa, mais c'est pas un mec chaleureux. Il avait, je l'ai connu. Tiens, une autre anecdote. Pascal Thibault, il faisait partie d'une association de buveurs de vin dans le qui s'appelait. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelait. C'était à Prissé-Mâcon avec Patrick May, Christophe Bourse, toutes ces choses-là. Et son surnom, on lui venait son surnom, on l'appelait le colonel Moutarde, parce qu'il était le seul à, il avait un costard à pied de poule, c'est le truc vieillot qui passait, et on l'appelait le colonel Moutarde. C'est le seul qui était pas drôle, mais bon, qui était quand même sympa, quoi. C'est un mec sympa, hein, Pascal. Non, c'est un mec qui est sympa. Il a Rennes maintenant, il est en National 2 à Rennes. Ouais.
Donc en tout cas incroyable, hein, parce que après vous avez entendu, après toutes ces péripéties, tous ces voyages, atterrir en terre amicaliste, donc adjoint de Pascal Thibault, et puis en fait, bah alors là tu devais encore moins le prévenir, encore moins l'imaginer. Tu parlais de concours de circonstances, tu te retrouves à quelques journées de la fin du championnat à être celui qui prend l'équipe en main. Et là clairement c'est un peu historique puisque on était parti pour descendre. Et Rémi maintient l'équipe en probé.
Qu'est-ce qui te pousse d'ailleurs là-dedans? C'est les gars qui t'ont poussé à la tête de l'équipe ou t'as senti
Il y a pas mal de choses. C'est qu'en fait, Pascal, il a multiplié les erreurs personnelles sur cette saison-là, mais il m'a laissé l'équipe le lundi et le mardi parce qu'il était en formation. Donc moi, dès le mois de janvier, j'ai commencé à entraîner les joueurs. Donc on a commencé à créer aussi
un lien,
une relation. Mmh. Et sans que je puisse imaginer que ça allait déboucher là-dessus. Après, quand on m'a proposé le poste, je pense que c'est surtout d'abord pour me le proposer. À mon avis, il y avait un problème financier pour recruter quelqu'un d'extérieur. Ça coûtait peut-être forcément moins cher. Et puis après, il y a des gens comme Wilfried Duchemin, Pierre Lafosse, à mon avis, surtout. Enfin, même que je connaissais pas beaucoup à l'époque, hein, mais bon, ils ont dû dire, bah, on tente avec lui, et ça s'est bien passé sur le lundi, le mardi. Enfin, j'imagine, hein, tout ça, j'en sais rien. Ouais,
t'as jamais eu la version, en fait.
J'ai jamais eu la version. Et après,
c'est marrant, il y a une sorte d'omerta toujours dans le monde du sport.
Après, je pense que Wilfried Duchemin a joué un grand rôle à ce moment-là. Je pense que lui vraiment a joué un rôle. Et après, il y a Eric Micou qui était venu me parler, parce que quand ils m'ont proposé le poste, je savais pas trop, quoi. Il y a Eric Micou, Jérôme.
Jérôme Monnet
qui m'ont dit de toute façon t'as rien à perdre, tente et tout. Donc,
voilà. Parce qu'on était, moi je me rappelle pas très clairement, on était quand même très malmené, on était
on n'était pas relégable, mais c'est sûr que si tu faisais 0-7,
il n'y avait plus personne, tu
pouvais descendre.
Au revoir.
Ouais, puis il y avait une rupture aussi complète avec Pascal Thibault, les joueurs ils voulaient plus jouer pour lui, quoi.
Pas que les joueurs, je crois que.
Le public, des fois, il a la mémoire courte, parce que deux ans auparavant, il terminait de la zone en finale. Alors, il foire complètement sa finale, et lui y compris, parce que je pense qu'il a coaché comme un pingouin, le quatrième carton. Mais sinon, il avait quand même emmené l'équipe en finale, il avait redonné un peu de couleur à un club qui était tombé un peu, depuis 2000 en 2001, en désuétude. Et donc c'était un petit peu difficile. Mais c'est vrai que je pense que il y avait vraiment un désamour par rapport à Pascal Thibault, parce qu'il n'est pas très chaleureux et tout ça. Et que voilà, les gens sont vite pris d'affection pour Rémi. Parce que je crois peut-être aussi parce que tu n'as jamais rien réclamé non plus. Parce que c'était arrivé. Je ne pense pas que tu avais programmé cette chose-là. D'ailleurs, ouais, comment tu l'as vécu, justement, est-ce que très vite, tu t'es dit, ça y est, je suis un vrai coach de Pro B, ou quel moment ça arrivait ?
Je n'ai jamais dit ça. J'ai toujours fait mon travail de la même manière, ouais. Que ce soit avec des poussins ou avec des pros.
Mais t'es plus intéressé par la formation à la base ou
Tout. Après, ce qui est sûr, c'est que quand t'es en pro, ce qui est hyper intéressant, c'est le challenge sportif avec la pression et la compétition. Donc ça, c'est vraiment fort parce que il y a énormément de pression et puis les joueurs sont bons. Donc tu peux faire plein de choses. Maintenant, après, si tu fais de la formation ou t'entraînes des petits, pour moi... Moi, c'est pour ça que ça m'a toujours choqué des entraîneurs en formation qui disent ouais, bah, le jour où j'aurai des cadets France ou le jour où j'aurai des espoirs, je bosserai plus et tout parce que je ferai la meilleure chose parce que les joueurs sont meilleurs et tout, etc. Ben non, tu dois aimer. Enfin,
il n'y a
pas de différence. Que tu entraînes des gamins ou des pros, quand tu aimes l'entraînement, ça reste le même. Donc, c'est pour ça que je prends autant de plaisir entraîner des pros que je prendrais à entraîner des gamins. C'est pas la même chose, mais c'est pas les mêmes contenus. Et encore, je vais te dire, avec les gamins, si c'était payé autant qu'avec les pros...
Ouais, tu préfères y aller, parce que c'est quelques mois.
T'as beaucoup de retours d'affection, ouais, c'est super, tu formes. Si en plus, t'as des parents sympas derrière, comme moi j'ai pu avoir à Monaco ou à Mont-Saint-Aignan,
il y a une vraie histoire de vie qui peut... Ouais, voilà.
Mais tu dis, parler d'affection, mais nous, on a fait un petit tri, là, on a trié tes photos, là. T'as un coach quand même assez câlin, parce qu'on a vu, on t'a vu embrasser Sylvain Granca, James Matisse, tu tombes avec des gars que t'aimes bien des années, et tu le vois s'enlacer, alors tu vois les gros bébés qui le prennent sous le bras, c'est assez marrant de voir.
Il faut se méfier, hein, c'est pas toujours plus gros.
Non. Mais non, c'est assez marrant. Entre ça, puis les génuflexions aussi, on t'a vu plusieurs fois à genoux aussi, devant l'arbitre et tout ça, deux, trois belles choses. On a des beaux clichés à voir sortir un jour dans le livre.
C'est énorme parce que on entend et on comprend mieux que en fait tout est histoire
d'opportunités,
de feeling, mais surtout d'investissement, puisque comme tu l'as évoqué, je pense que c'est tout le mérite que tu retires, c'est que justement tu as toujours donné à fond et que clairement ça se ressent, et quand ça se ressent on a envie de suivre ces gens-là. C'est beau. 9 années à la LM Évreux. J'ai envie de te demander quand même vite fait comme ça sur cet aspect-là. Bien sûr que tu l'as déjà évoqué. Des joueurs comme James Matisse sont des joueurs que tu as aimé beaucoup, que tu as beaucoup apprécié. Je pense que là où aussi tu avais une relation intéressante. Guillaume Constantin, n'en parlons pas. Voilà.
Ah oui, puis, Philippe aussi, Da Silva, Ben.
Philippe, Ben, carrément. Est-ce que en dehors du basket, à Évreux aussi, tu as eu des rencontres humaines comme ça qui t'ont marqué? Est-ce que par exemple le patron de Tel Kebab est devenu ton copain et te l'ouvrait à minuit et demi quand tu sortais du match?
Si tu veux, ils roulent tous en Mercedes à Évreux grâce à moi.
Tu as refilé des adresses. Non mais est-ce que on peut se permettre.
J'ai une info énorme que je viens d'avoir tout à l'heure. Il mange 2 kebabs. Il n'en mange pas un, il en mange 2. C'est le premier mec.
C'est pour ça que je te dis qu'on roule en Mercedes.
Le deuxième sans frites, quand même, c'est histoire de garder la ligne, quoi.
Est-ce que tu vois, sans rentrer, tu vois, au-delà des politiques, mais d'ailleurs, ça pourrait être des hommes politiques ou des personnes investies dans la politique, hein, tu vois, locale, je dis bien, parce que ça a quand même une échelle très locale, tout ça, mais est-ce que, à travers, je pense qu'Elsa aussi, il y avait une relation, Elsa Toffin, on rappelle, la directrice et manageuse du club. Je pense qu'avec André Roustal, ça va aussi. Bon, est-ce qu'il y a eu des gens comme ça qui à tout jamais, sont devenus des amis, tu vois, en partant à Rouen, bon, même si c'est pas très loin, tu verras, tu auras des nouvelles.
Bien sûr, t'as Philippe déjà.
Moi, je te parle plus à partir de ce soir.
Voilà,
hein, je suis désolé. Rouen, on a du mal. Hein.
Mais j'ai apprécié vraiment beaucoup de gens. Après, c'est sûr que des gens comme Philippe, Elsa, Sylvain, même André, Pierre Lafosse.
Sylvain, c'est Sylvain Granca, Rostol, Philippe Da Silva, je suppose.
Voilà, Philippe,
Toffin,
Ben Toffin.
Ben Toffin.
voilà, il y a beaucoup de gens qui forcément.
Et des personnes atypiques comme ça, en rigolant, je disais, sur le patron d'un kebab, ouais, voilà, quelqu'un de. Tu vois, sur Évreux, après, on peut ne pas citer nom, quoi, tu peux même être assez vaporeux sur l'endroit, mais un kiné qui est hyper, en plus, hyper cool, ta boulangère au coin de la rue quand tu as les habitudes de venir à Évreux à telle heure.
À Évreux depuis.
Ouais, mais quand tu arrives à Évreux et que tu arrives, tu t'arrêtes peut-être quelque part, où est-ce que tu as des petites habitudes que tu.
Non, il y a quelqu'un que j'appréciais beaucoup, c'est Michel de la salle de muscu, qui était l'ancien. Enfin, qui était patron d'Eurofitness.
Ouais.
Et ça.
Ça accompagne.
Ça me femme France. Et c'est, voilà, lui, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Quoi, parce que ça a été un grand sportif, déjà. Ça a été un des rares poids lourds boxeurs français à faire quelque chose. D'ailleurs, il me semble qu'il avait fait même des sparring avec Monzone.
Il est pas pourri, hein. Je sais pas quel âge il a, mais il reste encore. Il s'entretient tout le temps.
Ouais. Tu vois la salle de muscu et tout. Et voilà, c'est quelqu'un que j'aime bien parce qu'il a des vraies valeurs. Et puis c'est ces gens que j'aime beaucoup, quoi, qui en rajoutent pas.
Ouais, simple. Et puis pourtant, simple, ouais.
Voilà, il y a lui. Après il y a Jérôme Amiot, mais qui a été aussi Jérôme Amiot. Plein de gens.
Sixième homme a un lien étroit aussi,
sixième,
forcément.
Bien sûr, ouais. Voilà, bien sûr.
J'imagine passer les voir à chaque fois, à chaque fin de match. Ils appréciaient ça, je crois, de ce côté, d'aller passer dans le petit salon bleu.
C'était un club, et tout le monde fait partie du club. Il n'y a pas de barrière, rien.
Pour le coup, tu peux nous le confirmer. Quand on parle, tu sais, des fameuses histoires ou les clichés, ouais, c'est un club familial, on parle de rock dans tous ses états, un festival à dimension familiale, voilà, encore, on peut toucher les gens, on parle, on échange. L'ALM Évreux, clairement, dans ce club-là, avec ses limites d'ailleurs, après à côté, mais a vraiment une notion de famille et voilà, enfin, je sais pas, j'ai envie de dire d'homogénéité.
Bah oui, parce que ça reste à taille humaine. On n'est pas non plus beaucoup dans le club. Le sixième homme est très présent, on se connaît tous, on se voit.
Pas dû être simple hein, de se dire tiens, mais je vais bouger. T'aurais préféré monter avec le club et puis y rester.
Bah bien sûr, j'aurais voulu ça avec une augmentation de budget. C'est sûr que tu préfères toujours monter avec ton club, tu rendre les gens heureux, et puis il y a plus de confort. Il y a tous ceux qui auraient eu un engouement énorme.
Est-ce que c'est un peu ça aussi qui t'a fait changer, outre le fait justement de t'épanouir dans un autre club, c'est le fait de voir qu'après 5 ou 6 saisons vraiment très bien réussies, que le club justement ne grandisse pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre, quoi, de voir que voilà, au niveau des sponsors, des aides, le budget a tendance juste à stagner et donc à régresser parce que les autres clubs pendant ce temps-là grandissent. Est-ce que justement il y a un petit peu de regret, même si voilà, il y a une conjoncture économique qui est pas forcément évidente, mais de voir que qu'on n'a pas réussi à surfer sur des belles années comme ça de résultats sportifs pour justement mieux grandir, mieux asseoir un rôle de favori en Pro B pour justement un jour vraiment prétendre à pouvoir regagner la Pro A.
Bah, c'est sûr que c'est difficile de repartir chaque année avec le même budget. Maintenant, à un moment, si au niveau de la ville, on peut pas. Enfin, tu vois que le bassin économique.
Ah, je te parle pas de la ville, hein, je parle des sponsors.
Ouais, mais c'est les moyens aussi.
Non, mais c'est pas ça qui est rentré en ligne de compte dans ma réflexion. En partir, parce que j'aurais pu partir depuis 3-4 ans, tu vois, faire comme Laurent Le Niam, qui au bout de 2 ans, il part, il saute sur l'opportunité après avoir fait une grosse
Dijon,
saison.
Ouais.
Mais je me sens. Enfin, clairement, je disais, oui, je vais partir, je rencontrais les gens, mais quelque part, je voulais rester, parce que j'avais toujours l'impression que je pouvais y arriver et amener quelque chose. Et puis, tu vois, même encore l'année dernière, je mets des offres, j'aurais pu déjà partir, mais j'ai encore quelque chose à faire. Et il fallait vraiment que je me dise un moment que je sois persuadé qu'il fallait quelqu'un d'autre à l'ALM pour insuffler un nouveau souffle, que moi je pouvais plus que j'avais plus
la recette,
la même la recette et puis la même passion. Après, tu sais, le sport, ça reste du challenge, etc. 9 ans, c'est déjà très très long.
C'est énorme,
très long. Tu vois, et si tu franchis pas les étapes comme tu vois Pascal a pu le faire à Nanterre, là tu peux rester parce que tu franchis les étapes, ouais, nouveau budget, tu gagnes les titres et donc t'es toujours t'as toujours des challenges qui sont devant toi. Et là moi j'avais l'impression de plus avoir de challenge, de plus trop pouvoir amener quelque chose de différent à la LM, et que ce soit pour moi ou pour le club, c'était la bonne année.
Affaire à suivre.
Tu veux mettre une pause ou on continue?
Ouais, d'accord. Tiens, justement, encore en lien avec l'actualité. On va revenir sur ce sujet avec monsieur Rémi Valin. On est en compagnie de Rémi Valin, de Philippe Guinchard, et nous sommes dans Ta mère en short. On se retrouve dans deux minutes, mesdames et messieurs. Welcome everybody. Yeah.
Gary, sorry. 1, 2, 3, 4. It's the first time ever. Yo, fuck this jacket. I turn this shit to 85 knackers. Since she done done, I'm now the captain. Trust you, me, got them safer now. But there's always a new joker in town. Ready to smoke you with that pan, but when he shoot it, the flag says bang and everybody laughs. He must be open off the molly tab. I'm by the bar looking Swedish in a trench coat, stupid. The only one drinking mango lassie in a bullpen. My lips are sealed like the singer with bad skin. My need for speed made the jack spin. Dog, I'll resurrect Freaky Todd and do my ad-libs. Overseas, I probably got mad kids that I don't even know about. You better slow down, baby. I'm still young, fuck it. Gotta use it while it works. Nothing lasts forever, or does it? Fuck it. Shout out to my cousins, all of them. Take it back to playing handball and smoking on the park benches. Dipping cabs and hopping fences. Laughing all the way back to the building running. Got to the door, twist the key. Elevator waiting for me, 100. Got upstairs and fixed 11 bowls of Crispix. Grabbed a Snapple out the bin. No one's an even match for the kid. Legs are made of stone, the back of a bridge. In goal line situations, I'll tackle the fridge. Piece the mic, dick of 50 on a light fixture. Right side shift, the fight fixer. Twisted sister, and I ain't talking about the headband. Motherfucker, it's Bam Bam doing I can't even get this fucking right, are you kidding me? I'm ashamed of myself. I'm sorry.
Brand New Car de Action Bronson, mesdames et messieurs, dames, sur l'antenne de Principe Actif et d'HDR. Non, bah non, on n'est pas dans la matinée du matin de Principe Actif et c'est déjà pas mal. Brand New Car, tiens, est-ce que quand on signe à Rouen, on se change de voiture ou de rythme de vie ou de banquier?
Non, je ne change pas de banquier ni de voiture, parce que je vais garder ma bonne vieille Mégane qui a 230 000 km, parce que je fais les allers-retours tous les jours. Et puis voilà, là on va la finir. Hein, après, moi je suis pas très. Je suis pas très voiture.
Ouais.
Si un jour je dois m'acheter, j'ai vraiment de l'argent, peut-être que je prendrai une Porsche, mais ouais. Pas pour l'instant.
C'est pas les motivations.
C'est le prochain contrat.
C'est voilà, plutôt une maison.
Là je suis encore dans la famille.
C'est faire un bâtier. Faire un bâtier ou.
La break.
Kilka Moscou.
Je prends l'option diesel. Ok. Bon. Donc, signature à Rouen, Rémi. Alors, on pourrait revenir sur Évreux, mais il nous reste une dizaine de minutes. Moi, c'est plus ton quotidien qui m'importe. Et ouais, bon, tu pars à Rouen. Moi, je suis surtout content, comme je l'ai lu sur des posts, et heureusement, et plein de gens ont conscience de la chose. Tu as cité Donadieu tout à l'heure. Moi, je pense que vraiment, sont trop rares les gens qui ont vraiment mouillé le maillot, qui sont très fidèles à leur club. Dans le milieu professionnel, c'est très, très rare. Alors oui, Donadieu, c'est un cas même encore plus exceptionnel, plus de 20 ans et tout. Toi, avec 9 ans, je crois que déjà, un grand coup de chapeau, tu dois avoir, et que du coup, quel que soit ton choix, on devait être content pour toi, et c'est bien là essentiel.
Et puis, il vient de Rouen aussi, à la base, hein, pour un moment, on peut en redonner quand même. Parce
qu'ils nous ont donné un petit peu.
De là-bas aussi.
Du coup, tu pars à Rouen, j'ai vu une longue conférence de presse où tu disais que, en fait, il t'importait déjà de voir un petit peu au niveau de ton effectif les joueurs français. Donc moi, je ne savais pas, tu sais, je ne suis pas dans la tête d'un coach voilà, professionnel. Donc, est-ce qu'ils réagissent tous comme toi, les coachs oui, d'ailleurs, on s'en fout si c'est le cas ou pas, mais est-ce que c'est en général une règle générale que de regarder son ossature française? Parce que les Ricains, c'est plus facile à changer ou est-ce que non, c'est toi ta manière de faire?
Non, c'est quasiment obligatoire. Tu dois constituer ta base de JFL. Parce que tu dois en avoir 5 sur 10 en pro A et c'est là où le marché est le plus serré et le plus compliqué. Donc d'abord tu signes tes joueurs français et après tu vois pour les joueurs américains.
Là pour le coup tu re-signes alors parce qu'Alain Coffey peut-être 3 ans.
Ouais, peut-être.
C'est pas fait encore. C'est vous discutez.
Voilà, on discute, mais c'est en bonne voie. Donc j'espère que ça va pouvoir le faire.
Et l'autre joueur important et intéressant là,
ouais, Mipoka, ouais. Voilà, qui doit nous donner sa réponse avant vendredi.
D'accord, c'est en négociation aussi.
C'est en négociation.
On verra.
Dans tes prospects, là, tu vas essayer des coups avec des équipes de Pro B.
Tu me souffles la question.
T'as dit que tu prenais personne d'Evreux, t'as intérêt à dire ta parole. Ouais, mais est-ce que t'as des gars de Pro B qui t'intéressent?
Ouais,
justement.
Des jeunes qui ont un gros potentiel et on va essayer de les faire signer.
D'accord, ça c'est bien.
Par exemple, tu vas pas partir à Cordigny alors, ça veut dire?
Non.
Par exemple, d'accord, donc de jeunes joueurs intéressants en Pro B, de Pro B. Rouen, avec un budget différent, une signature 3 ans, mine de rien, dans la Kind Arena que tu connais, dont tout le monde sait que voilà, elle n'est pas pleinement remplie, mais
ouais,
ça c'est
pour 2 mois après.
Ouais.
il a osé, heureusement que le sonneau des centres omnisports est archi pourri quand même. Il a osé dire, bon, j'espère qu'on va vous voir à Rouen pour avoir un peu d'ambiance à tous les supporters de l'Audio. Par contre, nous, on a un vrai problème de sonneau parce que c'est vrai que l'Audio, le tech, même je pense qu'il y a des tas de gens qui n'ont pas entendu que Laurent Pluvy était le nouvel entraîneur d'Evreux parce que c'est tellement, il y a une espèce de bruit qui est vachement intéressant quand tu joues, mais par contre, quand tu commentes, t'entends strictement rien. Pourtant, il y a des enceintes Bose, mais je crois qu'il y a une caisse de résonance qui est vraiment pas du tout adaptée.
Et c'est l'orientation des enceinte et voilà, qui fait d'ailleurs les petits mots de Rémi lors de ce match contre ce dernier match à domicile Sofel, et on l'entendait très mal malheureusement. On entend le Pichoun qui glisse un petit mot tout mignon, mais voilà. Rouen du coup l'année prochaine, ton effectif pas encore établi clairement, parce que c'est 5 ricains cette année, enfin 5 joueurs étrangers. Est-ce que tu vas rester sur le versant nord-américain ou tu es capable toi d'aller dans tes contacts, tes agents, parce que tu disais que tu bossais avec plusieurs agents, mais tu savais surtout ceux avec qui tu voulais pas travailler par ton expérience.
Oui, il y en a peu.
T'es capable d'aller dégoter du Hugo, c'est des choses qui t'effraient pas, ou c'est parce qu'on t'a pas trop vu à la LM Evreux avec des joueurs hormis le Finlandais là il y a quelques années, et en plus je sais même pas si c'était sous ta coupelle.
Non, mais ouais, les deux bossman, ça a été des réussites. Il y en a un qui a même pas passé les visites.
J'ai refait la photo, tiens, l'autre jour.
De Petchoukas.
Qui avait les genoux en vrac.
Qui avait les genoux en vrac alors que c'était un très beau joueur. Et puis Djordjic. Non, ça ne me ferait pas. Après, c'est la qualité du joueur. Ce qui est sûr, c'est qu'un bon bossman, c'est plus cher qu'un bon américain. Donc, tu as des réalités financières qui font que c'est pour ça qu'on se tourne beaucoup vers les US. Mais si demain tu me dis tu peux prendre Kikanovic de Nancy, je peux le prendre. Hein.
Mais est-ce que tu vas conserver un peu ta philosophie justement de prendre des joueurs avec des valeurs humaines intéressantes, ou est-ce que justement tu te dis maintenant que tu es dans le haut niveau et que ça malheureusement c'est pas forcément une priorité, tu vas chercher vraiment à trouver des joueurs même avec du caractère, même avec qui tu peux être amené à te friter, à pas être d'accord. C'est une façon de gérer un groupe différent pour toi.
Des joueurs avec du caractère.
Oui, bien sûr.
Pas forcément, mais tu vois, un Drake Reed ou un Jeremy Hood, c'est pas évident à gérer. Même si c'est des mecs qui, à l'entraînement, sont très corrects, dans le bureau, avec quoi, enfin, tu vois, c'était des joueurs qui n'étaient pas forcément faciles.
Mais sur quoi, sur quel aspect? Sans rentrer dans l'état, sur l'attente, sur le caractère, sur les exigences?
Non, mais Drake Reed, par exemple, même si on gagnait un match de 25 points, et comme c'est arrivé plusieurs fois, si je le faisais pas jouer du quatrième carton, le lundi matin, je pouvais être sûr, je l'avais dans mon bureau. Et voilà.
C'est lui qui venait.
Ouais. Mais au moins il était franc, c'est ça qui était bien.
Choses étaient claires.
Et puis de toute façon, j'ai dû leur expliquer 5-6 fois, ça n'a jamais rien changé, parce que quand on menait de 25 points, je faisais jouer quelqu'un d'autre parce que ça servait à rien de le faire jouer. Et il revenait quand même, et je lui expliquais la même chose. Et voilà. Et Wood, c'était ça venait par rapport, j'ai pas eu assez de ballons, c'est moi le meilleur joueur de l'équipe et tout, etc.
Et le pire, c'est que c'est assumé, quoi. Puis c'était
lui, il l'assume, c'est ça qui est bien. Mais après, à côté de ça, voilà, c'est un gros compétiteur et tout.
Ouais, c'est intéressant ça. Donc d'envisager l'échelon dessus, ouais. Et qu'est-ce que tu, justement, où situes-tu la chose où tu vas devoir apprendre? Est-ce que dans la gestion, par exemple, d'imprimer ce que tu veux faire du début à la fin, ou t'adapter au coaching adverse? Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu veux modifier, par exemple, ou tu vas rester, tu vas apprendre à y voir, ou tu vas apprendre sur le métier?
Même en 9 ans, j'ai quand même joué beaucoup de coachs qui sont en pro maintenant.
Oui, bien sûr.
Et puis on a gagné contre eux. Bergeau, Girard, même si ça fait un bout de temps qu'il était, Jean-Louis Borg, Pascal, Donc j'ai déjà joué contre ces coachs-là, ils n'ont pas changé.
Ouais, Laurent Hunam aussi, tu vas rencontrer.
Ils n'ont pas changé parce que ils changent de division. Donc voilà, j'ai regardé comment ça joue en Pro A. Ce qui change beaucoup, c'est la qualité des joueurs. C'est-à-dire que les joueurs de banc sont les meilleurs joueurs de Pro B, en gros, si tu caricatures. Voilà, donc c'est surtout les joueurs qui changent. Et puis les joueurs, ils vont vite comprendre
qui c'est le boss.
Ils vont devoir faire ce qu'ils ont à faire.
Moi, j'ai peut-être une piste. Écoute bien, Philippe, ami auditeur, auditrice, sur ce qu'il devra apprendre à gérer, maîtriser ou à peut-être une forme d'apprentissage. On écoute.
Ah, mes amis, tu me laisses même pas tranquille pendant les playoffs. Tu me mets de la pression là.
Tu fais pas mal avec eux, tu vois.
Ah mais non, c'est pas du tout le temps. C'est pas du tout le temps.
Bah, qu'est-ce que t'as à dire, Rémi?
J'ai à dire que je n'ai pas cédé à Rouen, que tu n'es pas du tout dans les tuyaux à l'heure actuelle. Et que donc, voilà. Vos infos, elles sont fausses. Je n'ai pas signé. C'est pas à l'heure actuelle.
Ah, je suis taquin. Ça a été au sortir d'une conférence de presse il y a un an maintenant, hein, que les choses soient claires. Où en fait, on avait nous-mêmes taquiné un petit peu le quotidien régional avec Philippe, disant c'est normal de balancer des trucs comme ça. En fait,
c'est plus un problème de philosophie, en fait, de conception du boulot, mais je pense qu'aussi c'est aussi l'ère moderne qui fait ça, c'est que le quotidien, lui, il est dans une formule où l'actu, c'est un fil d'actu permanent, comme on voit maintenant sur les chaînes d'actu. Et dès qu'il y a quelque chose, ils sont vraiment, il faut être les premiers, quoi. Et nous, peut-être que c'est aussi le style de ma presse aussi, qui est une presse hebdo, qui est plus posée, on va dire, mais où on cherche surtout à valoriser, quand on est à 32 journées sur 34 de championnat, tu restes dans le sportif et je dirais là où va Tartampion, même le coach qu'on aime bien, on attend que la saison soit terminée pour valider quelque chose comme ça. Et là, ce qu'on leur reprochait surtout, c'était le choix du jour.
Ouais,
comme les deux fois sont tombés sur le portel, on voulait ça, des matchs hyper importants. Donc,
alors, c'est rigolo parce qu'on met ça en clin d'œil.
Mais
bien
je comprends
sûr,
aussi parce que moi, j'avoue que des fois, j'étais aussi à un moment un peu comme ça aussi à chercher à avoir l'info avant tout le monde. Mais est-ce que c'est ça vraiment ce que veulent lire les gens? Je suis pas certain en fait. Même si ça fait un peu plus potin que sportif.
L'anecdote, c'est la presse quotidienne régionale, et que mine de rien, tu vas y être confronté quasiment quotidiennement maintenant, puisque ça va forcément alimenter les rubriques sport. Mais tant mieux, hein, pour le coup. Mais c'était pour manière rigolote et un peu anecdotique, je voulais absolument ressortir cet extrait sonore que j'avais trouvé frais et rigolo, parce que t'étais un peu énervé l'année dernière. En plus, c'était le cas, tu n'avais pas signé à Rouen. C'était vraiment le cas.
Cela dit, il y a c'est David Poinel qui fait un très très bon boulot là.
Ouais, il écrit bien.
Paris Normandie. On espère qu'on va le garder parce que j'ai peur que le fait que Rémi s'en aille d'Evreux attire tous les journalistes vers Rouen l'année prochaine. On espère quand même garder quand même des bons confrères.
On va profiter quand même, s'il te plaît, Rémi, de ton regard sur la nouvelle signature de Laurent Pluvy à Evreux, qui va signer officiellement ce soir. L'information est officielle depuis vendredi passé. Un an ou deux ans d'ailleurs, Philippe.
A priori, c'est deux ans.
Il est revenu,
c'est deux ans ferme.
Laurent Pluvy, ancien international de basket français, qui a donc coaché Saint-Vallier pendant quelques années, mais pas entraîné depuis un an. Il était consultant. C'est clairement un bon choix pour Evreux.
Clairement.
Tu peux rassurer, parce que les échos sont plutôt positifs, les avis sont plutôt positifs, mais c'est un monsieur qui connaît bien le basket.
Il connaît bien le basket. En plus, moi, je le connais bien parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. Sur les recrutements de joueurs américains, on était toujours sur les mêmes.
Ouais, il y a bagarre à chaque fois.
Voilà. Je pense que c'est ce qui pouvait arriver de mieux à la LM.
Moi, je pense que je partage aussi avec l'avis de Rémi. C'est même peut-être mieux que Jean-Manuel Souza, qui était le premier choix du club, qui est un joueur de club, mais qui a un caractère difficile et puis qui est pas forcément. Je suis pas certain qu'il fera une carrière aussi intéressante que Laurent Pluvy peut faire, à mon avavis, parce que Laurent Pluvy, c'est quelqu'un qui a une assise, qui est jeune dans le milieu, qui a 42 ans.
Cinq ans de pratique dans le même club, 6 ans, ça reste quand même très.
Il est resté à Saint-Vallier, il a des valeurs, c'est un mec bien.
Et il a donné la priorité, c'est aussi ça qui m'a surpris, parce que moi le premier, je pensais, quand j'ai vu que le coach du Havre partait à Portez, que la place était libre, Laurent Pluvy a été joueur au Havre, il a gardé une très bonne image du club. J'étais certain que le fait qu'il ait différé sa réponse, c'était normalement prévu mercredi soir dernier ou jeudi matin. Le jeudi soir, on n'avait rien. Elsa Topin avait beau me dire qu'elle était en bonne voie, on avait quand même des doutes, et je pensais qu'effectivement, en jeudi soir, en voyant que le coach Havre partait à Pau, on allait le perdre aussi. Or, il a gardé la priorité à Évreux. peut-être par un challenge, on va lui demander ce soir ce qu'il y a à la conférence de presse, peut-être par rapport à cette volonté toujours de ce challenge sportif qui existe toujours à Évreux, parce que à Évreux, même si les structures ont du mal à se développer, on est toujours vraiment, on a toujours envie de retourner vers la Pro A, on joue toujours le haut tableau de Pro B, et voilà, il y a quelque chose. Tandis que le Havre a clairement annoncé que même s'ils étaient en Europe, ils ne joueraient pas la Coupe d'Europe. Enfin, c'est vraiment.
Le Havre, c'est la guigne possible. Du sport en général, parce que quand tu regardes le HAC avec le mec là, qui devait racheter avec les investisseurs, ils ont fait tourner en bourrique. L'autre, il a mangé petit four, maire, reçu par le maire et compagnie. Ouais, tout va bien, machin. Et puis, rien du tout qui est arrivé. Voilà, on est en 2015 quand tu vois ça, c'est ouf. Terrible. Et le Havre, de voir ça pour le basket où il y a une valeur, parce que le Havre, c'est quand même une terre de sport. Hein. On a beau dire ce qu'on veut. En équipe région, dans le handball, dans le basket, dans le football, ils ont combien d'équipes qui gravitent autour des communes là, du Havre et qui sont des, en plus ça a des pépites, Évreux aussi pour le coup, Rouen aussi d'ailleurs, mais une terre de jeunes joueurs, voilà, il y a eu des stars qui sont sortis du territoire havré. Enfin bon, moi j'hallucine, donc on verra bien, mais c'est cool en tout cas la signature de Laurent Pluvy, ça fait plaisir.
Faut pas qu'il termine premier.
Deuxième, il peut, mais premier, il n'a pas le droit.
S'il monte, ça sera bien quand même. On dira que voilà, t'as amorcé, t'as fait le bout en train. Ouais. Et c'est lui qui fait les talons.
Ouais,
je savais que ça allait te plaire.
Là-bas, à Rouen, tu signes avec un ami de longue date. D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'on aurait pu imaginer, est-ce que tu allais emmener Sylvain, Sylvain va être l'adjoint de Laurent Pluvy. Merci pour l'info. Donc tu pars avec quelqu'un dont tu es très content au final de le retrouver, j'avais cru comprendre dans l'interview que j'ai vu.
Je suis content, je pense que le duo d'entraîneurs, il est important que ce soit donc il faut déjà bien s'entendre.
Vous êtes trois en fait du coup, non?
On est deux et puis après il y aura l'entraîneur du centre de formation
qui n'est pas encore
acté.
D'accord. Tu vas jouer un rôle là-dedans dans ce recrutement.
C'est moi qui vais le choisir avec le président, avec.
Bruno Chatillon,
Antoine Dufy. Il y a des bons formateurs à Évreux.
Non, mais voilà, je suis très content et c'est quelqu'un qui est hyper compétent, à qui on va donner sa chance sur le haut niveau parce qu'il était sur les cadets France de Nancy, mais il avait eu les espoirs de Rouen aussi avant en Pro A. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime bien, qui a un gros caractère, qui a pas la langue dans sa poche et tout, mais quand on le connaît, c'est quelqu'un qui est adorable. Et voilà, puis c'est surtout quelqu'un qui est passionné, qui connaît le basket.
Ouais, c'est la manière dont tu en parlais, vous échangez régulièrement, grosse vision comme toi, très proche de la tienne du basket. Ouais.
Et puis c'est pas un arriviste. Donc c'est important.
Donc si ça va pas trop les résultats, il y a peu de chances qu'ils te plombent et que...
Pas de couteau dans le dos.
C'est comment tu les surnommes ces adjoints-là là,
qui... Des Bino.
Ouais. C'est pas Rémi qui dit. Cédric Bino, coach de Lille, qui est parti depuis. Autre chose, tu sais, que j'ai vu dans la presse, a priori, tu sais, il y a toujours des fois des joueurs majeurs comme ça qui reviennent un peu sur leur terre. On pense à. Pourtant, Tony Parker, il avait rien à voir avec l'ASVEL, mais c'est le projet. Alors qu'il a joué, je crois, de mémoire à Mont-Saint-Aignan, il a été à l'INSEP, Tony Parker. On voit Boris Diou à JSA Bordeaux qui a porté le maillot. Moi, je me rappelle que Évreux a joué contre Boris Diou. Ouais, t'as joué contre lui, je me rappelle très bien. Moi, j'avais un lien aussi avec la JSA. Les pauvres, c'est parti en cacahuète derrière. Mauvaise gestion. Là, on voit arriver Batum à Caen. Et donc, là, je lisais dans la presse.
Plus au Mans. Quand il est plus comme parrain, mais au Mans,
j'ai lu Maïni. Qui a dit, moi, je ne vais pas injecter des thunes. Je veux amener mon image au club. Parce qu'il y avait pourtant, j'ai retrouvé des articles où il a hésité à un moment donné s'investir dans d'autres formations il y a quelques années. Là, aujourd'hui, il y a 4, 5, 6 jours, il dit que voilà, il veut clairement amener son image, apporter à Rouen, qui est sa ville de cœur, de départ et de naissance. Tu l'as déjà rencontré, t'es au courant de ces choses-là?
Oui, je l'ai rencontré et j'ai les mêmes infos que toi.
D'accord.
Il veut s'investir dans le club et voilà, c'est quelqu'un de bien et qui reste très simple. Voilà.
Ouais.
Ouais, c'est un peu dans l'air du temps aussi. Bah, je pense qu'il y a aussi le parfum de l'Euro aussi qui aide à ça. C'est que tous les joueurs qui sont sélectionnables en équipe de France ont envie d'avoir une meilleure présence sur le territoire, vu que généralement ils se jouent tous en NBA ou dans les grands clubs d'Europe. Et donc ils essaient de plus en plus de renvoyer. Chacun se partage un petit peu le gâteau.
Enfin, c'est pas toujours facile.
Non, mais c'est plutôt bien. De toute façon, c'est plutôt sympa. Voilà, ça aidera forcément les clubs à dénicher, à ramener des sponsors, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, c'est avoir un peu d'argent pour s'épanouir. Donc ouais, c'est plutôt des bonnes choses quoi.
On va être obligé de, bah oui, hein, d'achever ce temps d'antenne.
Il y a un kebab derrière qui attend.
Non, un double.
Non, double.
Tu disais le deuxième sans frites.
Les deux sans frites.
On en sait un petit peu plus. On va conclure cette émission de Ta mère en short en rappelant qu'aujourd'hui sur l'antenne de Prince Paki, vous aurez une rediff dès 15h. Radio Lomax 17-18h qui fait la part belle au 106 sur HDR et Prince Paki. Mixture, voilà, émission toujours intéressante avec Guise, le professeur, Doc, pardon, et monsieur Guy Moquet, la Factory. On sera en plus en consonante rock'n'roll. Et n'oubliez pas, à partir de 20h30, It's Time en mode extérieur qui sera au 13 bis avec un format un petit peu plus agrandi avec du live, des interviews, Dub Einstein et Faya Nature. Voilà qui est dit, voilà qui est fait sur Antenne Prince Paki en cette journée de lundi 1er juin.
Rediffusion
mercredi. Bingo sur l'antenne de Prince Paki. On met un rediff, comme ça on réentendra pour celles et ceux qui ont loupé cet échange avec Rémi Valin. Ouais, bien sûr, en podcast dans 2 heures.
Maxi. On peut témoigner. Non seulement ta photo que tu as faite tout à l'heure sur Facebook est passée, mais pour témoigner.
Il était là, tu étais là aujourd'hui. Ouais, c'était en live, mesdames et messieurs.
Je m'en chargé de com.
Rémi, pour de vrai, merci pour ces belles années. Ah, et puis aussi à une petite échelle aussi pour même le média local qui a toujours eu à cœur de suivre un petit peu ce qui se passait. Il a jamais été pris de haut, le média local, et ça c'est tout bête, ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui dans les studios.
C'est la
voilà
famille.
Philippe, la classe internationale toujours, ouais. Ce monsieur
interrégional,
intermédiaire de qualité qu'on aurait dû débaucher à Rouen, mais tant mieux qu'il reste sur Évreux pour
parce que
je suis bien content, moi,
travail à long terme.
Je suis bien content qu'il officie sur nos terres. Merci beaucoup Rémi, que ça se passe bien à Rouen. On se croisera très certainement à la Kind Arena, on viendra voir ça. Et puis Philippe, bonne journée à toi, on se retrouve lundi prochain, on essaiera d'avoir les footeux hein, pour parler de choses positives, de l'élan positif sportif à Évreux. Merci beaucoup, on rappelle Laurent Pleuvic a signé, ce soir c'est officiel à 17h, on vous en dit pas plus. Merci, bonne carrière tout court, puisque t'as encore de belles années à vivre. On te souhaite, moi, pour ma part, sincèrement, que ça se passe très bien à Rouen, tu le mérites, et puis que la région, voilà, aussi un beau club en proie, et qu'on aimerait rejoindre, bien sûr, mais et qu'on va rejoindre, d'ailleurs, en proie, ces 4 matins.
Pas trop vite,
mais si, quand même. Merci Rémi, et bonne continuation sportive, voilà, et merci Philippe.
Salut.
Bye bye. Salut.